expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Bonsoir à tous et merci d'écouter Radio Campus sur 88.3. Aujourd'hui, je vais vous présenter un débat sur le thème de la liberté de s'orienter. Est-elle une utopie ou une réalité ? Pour y répondre, je suis ravi d'accueillir en ce jeudi 8 décembre 2022 des volontaires en service civique qui se sont, tout comme moi, interrogés sur cette question. Et pour y répondre, on va passer par plusieurs thèmes un peu débat, notamment sur comment choisir un domaine de métier quand on est encore mineur, comment la perception des différentes filières crée telles des inégalités, ou encore pourquoi nous nous réentendons. Du coup, je suis ravi d'accueillir Chloé.
Hello.
Ça va bien ?
Ça va nickel, et
tu
toi ?
Tu peux te présenter vite fait pour nos auditeurs ?
Eh ben, écoute, j'ai 24 ans, je suis actuellement en service civique dans une ressourcerie à Saint-Jean-de-Bray. Mmh. Et moi aussi, j'ai fait des premières études et je me suis réorientée. Et voilà, donc je pense que ce sera parfaitement approprié pour cette table ronde.
Et bah merci beaucoup, ravie de vous accueillir. On accueille aussi Pauline.
Bonjour.
Si tu peux te présenter vite fait pour nos auditeurs.
Alors moi, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans. Je suis en service civique au Théâtre de l'Escabeau à Briard-le-Canal. Et j'ai également un parcours scolaire et professionnel atypique. Donc, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement.
Très bien, bah, enchantée, ravie de vous accueillir. Nous accueillons aussi Malika.
Bah, du coup, je m'appelle Malika, j'ai 18 ans et je suis actuellement en terminale STMG marketing au lycée Benjamin Franklin.
Très bien, merci beaucoup. Et nous accueillons enfin Mamadou. Bonjour.
Bonjour.
Si tu peux nous te présenter pour nos auditeurs.
Moi, je m'appelle Mamadou, j'habite à Argonne, je suis actuellement en terminale technicien d'installation du système énergétique et climatique à Saint-Jean-de-Bray.
Très bien, merci à tous. Moi, je me présente, je suis Ryan et je serai le maître de cette conférence. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser une question à tous. Vous avez chacun, comme vous êtes présenté, un parcours scolaire différent. Du coup, ça va permettre d'avoir un plus grand point de vue pour répondre à cette question. Alors, selon vous, est-ce que les filières conditionnent-elles les métiers futurs ? On va commencer par Chloé, si tu as une idée.
Eh ben, écoute, j'ai pas envie de te répondre oui ou de te répondre non.
Il y a pas de
mais c'est le sujet hein, de toute façon de cette table ronde. D'un côté, oui, je pense que quand on choisit une filière après pour accéder à certains types d'études, en fait, il faut faire une filière particulière. Mais moi, je pense qu'on peut toujours se réorienter, qu'il y a aussi des passerelles, et donc du coup. Je pense qu'au final, on est toujours libre de faire ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer.
C'est vrai qu'il existe des passerelles et notamment des sessions de remise à niveau pour notamment changer de filière. On en reparlera peut-être plus tard. Du coup, nous passons à Pauline, si vous pouvez rapporter des éléments de réponse.
Voilà, donc comme on l'a dit au début, nous avons deux invités que nous avons invités pour témoigner. Et j'aimerais donner la parole du coup à Malika, que tu nous parles. Quelle étude tu fais, quels sont tes projets, que te permet ton service civique. J'aimerais que tu nous parles un peu de toi plus en détail.
Bah, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en terminale STMG marketing. Du coup, par mon option, c'est plus se diriger vers tout ce qui est dans le commerce, que ce soit le management ou autre. Après, plus tard, après mon bac, j'aimerais bien faire quelque chose qui n'a aucun rapport avec ça. Je veux faire éducatrice spécialisée. Mais il y a plein d'idées qui se mélangent. Du coup, je vais aussi faire un BUT-GEA qui rejoint ma filière, mais sans trop. C'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, que je vais aimer. Et mon service civique, il va me permettre de déjà me plonger dans le monde du travail, de savoir comment ça fonctionne, etc.
Alors, excuse-moi, je te coupe, mais de ce que tu dis là, on sent qu'il ressort que... Est-ce que, tu m'arrêtes si je me trompe, mais est-ce que tu ne trouves pas compliqué de choisir finalement sa voie en étant très jeune comme ça ? Tu nous parles de tes études, mais tu dis que finalement, ce n'est pas ça que tu veux faire. Explique-toi un peu.
Bah, du coup, moi, ce que j'aime, enfin, c'est pas ce que j'apprécie pas trop en fait dans le système scolaire, c'est que on est obligé de se diriger dans certaines cases avec du coup certaines spécialités, parce que pour ma part, c'était j'avais trois choix, j'avais soit ressources humaines, soit gestion finance et soit marketing. Donc les trois choix m'ont pas forcément plu. Au début, j'ai choisi cette filière parce qu'il y avait du droit. Et à la base, moi, je voulais faire du droit. Mais on va dire que mes notes et mon bulletin ne m'a pas permis de pouvoir passer en général. Du coup, ça fait que... ça nous conditionne beaucoup dans certaines cases. Par exemple, avec mon bac STMG marketing, par exemple, pour un BUT EGA, je serai prioritaire. Mais par exemple, si je veux changer, je veux faire psychologie dans une fac, ça va être beaucoup plus restreint. Ou par exemple, éducatrice spécialisée, en soi, je ne sais pas si forcément je vais être prise ou non. Parce que c'est plein de petits détails qui font que pour certaines choses, ça va être extrêmement ouvert et pour d'autres, ça va être extrêmement refermé.
Et est-ce que ça t'angoisse, tout ça ?
Oui, c'est vraiment
alors,
une angoisse.
Si je peux revenir sur ce que vous avez dit, vous avez dit que vous allez devenir éducateur spécialisé, je me trompe ?
Oui.
Très bien. Est-ce que du coup, vous vous sentez vraiment conditionné par votre filière que vous avez faite pour accéder à ces études ? Ou vous sentez libre de pouvoir y aller ?
Je me sens libre de pouvoir y aller, malgré que ma filière ne m'apprend pas grand-chose, entre guillemets. Mm-hmm. Mais le fait d'être en service civique au niveau de l'animation, je suis proche des jeunes. J'apprends à voir comment ils fonctionnent, etc., comment ils pensent. Et au commencement de mon BAFA, j'ai quelques bases par rapport à ça.
Ce qui se passe aussi, c'est que si on fait des études, c'est justement pour apprendre un métier, tu vois. Tu peux pas non plus apprendre ton métier avant de faire tes études pour exercer ce métier. Mais au final, je pense que ce que j'entends, pareil, dis-moi si je me trompe, c'est que peut-être qu'en te dirigeant vers ces études sans avoir eu d'expérience avant dans ce milieu-là, tu pourrais avoir un sentiment de ne pas être sûr que ça te plaise.
Ouais, c'est ça. Je suis constamment dans l'incertitude. Par exemple, j'ai dû préparer mon Parcoursup. C'est là où on met le nom de l'élève, etc. Et limite, c'est comme une roulette russe, c'est un jeu, on ne sait pas dans quoi on va tomber. Et dans cette feuille, j'ai marqué éducatrice spécialisée. 2 heures après, j'ai pensé prof de management. 3 heures après, j'étais là, je pensais que j'allais faire du droit. En fait, le problème, c'est qu'on nous dit trop de choisir un truc précis, malgré qu'on a plusieurs choix. Mais le premier vœu, ça sera toujours celui que vous devez prendre. Et si on n'est pas accepté dans celui qu'on voulait et qu'on l'a mis en troisième, c'est à nous, quoi.
Est-ce que vous soulignez pas un détail comme quoi l'école vous force un peu à prendre un choix, ce qui fait qu'on a plein d'idées, mais on n'est pas encore sûr vraiment où on veut aller ?
Si, c'est exactement ça. On nous demande un choix alors que... Et on ne nous explique pas toutes les autres possibilités. On nous dit une chose, c'est tout.
Très bien, très bien. Un mot à dire, Mamadou, sur... Est-ce que toi, tu te sens conditionné par ta filière ? Si tu veux vraiment faire, je ne sais pas, médecin ou avocat.
Déjà, peut-être que Mamadou, tu peux te...
Représenter pour nos
auditeurs. Ouais, te représenter, expliquer ton parcours et tes envies.
Ok. Moi, je m'appelle Mamadou. Je suis actuellement en terminale. Moi, personnellement, les cours, ce n'était pas trop pour moi. J'ai préféré faire une alternance, mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver un patron. Enfin, j'ai trouvé, mais il y a eu quelques complications. Du coup, je suis reparti en cours. Mais au fur et à mesure des années, moi, les cours, ça ne m'intéresse pas trop. Du coup, des fois, je peux être là, je peux être perdu. Des fois, je peux aimer.
Qu'est-ce qui ne t'intéresse pas trop dans les cours ?
Les cours.
C'est la partie théorique.
Ouais, c'est ça.
Le fait d'être assis sur une table. Voilà, tu préfères être dans l'action.
En fait, je préfère plus faire de la pratique, comme en alternance, en gros, plus pratique, plus cours. Après, la théorie, en fait, en étant en alternance, je peux l'apprendre en même temps ou juste un peu. Mais être comme ça en cours, j'aime pas trop.
Tu préfères.
Quand je pars en stage, je suis bien, je suis à l'aise, ça me permet de mieux écouter, mieux faire. Même si je sais pas faire, poser des questions encore plus que je suis en cours. Après, même si là, je termine et tout, il se peut que je peux arrêter, faire une autre chose, après revenir dessus. Tu vois. Après, mais je ne me mets pas la pression sur ça. Parce que peu importe ce que je vais faire dans la vie, je ne vais pas regretter. Parce que c'est toujours un plus. Et c'est un truc que j'ai commencé, même si j'arrête, peut-être ça va rester, peut-être ça va partir. Mais je ne vais pas me dire, ouais, j'ai fait tout ça pour rien.
Bonne philosophie.
C'est une expérience, comme on appelle ça.
une expérience.
Tu préfères en gros avoir des actions concrètes de ce que tu fais plutôt que d'étudier la théorie et ne pas pouvoir agir.
Oui.
Très bien. C'est un bon point de vue, effectivement.
Et du coup, tu fais également un service civique qui, je crois, est assez éloigné de la filière dans laquelle tu étudies.
Ouais, exactement. En fait, j'ai commencé par faire mon BAFA. Je l'ai eu. Parce qu'en fait, depuis un moment, j'aime bien tout ce qui est dans l'animation. Parce que j'ai grandi dans ça. J'ai été, quand j'étais jeune, j'étais inscrit. Mon grand frère aussi était animateur. Du coup, ça m'a permis de voir comment eux, ils fonctionnaient, comment eux, ils travaillaient. Du coup, bah, ça m'a mis dedans. Ça ne veut pas dire qu'en gros, je suis là dedans, que je vais forcément continuer dans ça. C'est juste un plus pour moi et puis voilà. Dans la même lancée, j'ai fait un service civique parce que j'aime bien les enfants. Ça me permet de participer aussi à des activités, faire des projets. Et pourquoi pas proposer moi aussi un projet pour vraiment le faire et que ça aboutisse à quelque chose.
Au final, tu as, comme qui dirait, plusieurs cordes à ton arc. À la fois l'animation avec les enfants et toute ta partie professionnelle. Et tu peux expliquer, c'est deux, je ne sais pas si on peut appeler ça des passions, mais c'est deux intérêts qui sont quand même assez différents. Pour toi, c'est... Oui, ça te paraît normal de s'intéresser à ces deux choses, c'est naturel.
Ouais, pour moi, c'est naturel. Dans la vie, on aime tous plusieurs choses ou ça se trouve une seule chose. Moi, demain, ça se trouve que je vais arrêter dans ce que je fais professionnellement, excusez-moi. Bah, il se peut que je vais continuer dans l'animation pour après stopper ça aussi et reprendre. Donc en soi, ça me permet de ne pas rester bloqué à rien faire comme ça, quoi.
Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage.
J'aimerais maintenant vous poser une question à tous. Certains ne se sentent pas conditionnés, libres de faire ce qu'ils veulent après leur diplôme. Mais pourtant, certains chiffres montrent que ce n'est pas, on dirait, le cas pour tout le monde. Si je vous cite notamment la source du RES, qui est le repère des références statistiques, une publication de référence pour les domaines de l'éducation nationale, je rappelle pour les auditeurs, au cas où ils ne connaissent pas, que par exemple, les bacheliers professionnels sont seulement que 4% allés à l'université. C'est un choix personnel ou alors c'est parce qu'ils ne peuvent pas? Comment vous ressentez-vous face à ça?
Eh bien, écoute, je crois qu'on n'a personne ici qui est concerné par ce cas. Donc, ce serait, je pense, peut-être compliqué de parler à leur place. Mais quand on fait un bac pro, on apprend aussi un métier. Donc, à la sortie d'un bac pro, c'est beaucoup plus facile, je pense, de s'orienter vers un métier, d'avoir les compétences pour le faire, alors que quand on sort d'un bac général, mais justement, on n'a pas du tout appris ou de compétences, si tu veux, pour exercer un métier. Ça reste, pour le coup, très général. Et comment s'insérer dans le monde pro, en fait, sans ça?
Donc, tu soulignes une question plutôt de logique que de conditionnement.
A priori, après je peux me tromper, comme je te dis, ici il n'y a personne pour en témoigner.
Oui, je comprends totalement. Quelqu'un d'autre chose à ajouter?
Peut-être peut-on partir sur un autre témoignage? Chloé, éventuellement, si tu veux nous parler de toi.
Ok, alors, donc j'ai 24 ans, j'ai fait un bac ES. Ma passion depuis toujours, c'était la mode, la couture. Je couds depuis que j'ai 10 ans, je ne me suis jamais arrêtée. Et je pense que depuis, ça doit être mes 10 ans aussi, j'ai toujours répondu à la question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Styliste. Donc, c'est hyper naturellement que, en terminale, je ne me suis pas inscrite sur Parcoursup. Je me suis orientée vers une école de design de mode. Et j'ai fait les démarches pour m'inscrire. Et donc, j'ai passé 2 ans en design de mode. Au bout de ces 2 ans-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des valeurs qui m'étaient chères et qui n'étaient pas du tout respectées en faisant ce métier. J'ai notamment eu une prise de conscience écologique énorme. Et donc, ça me paraissait vraiment impossible de continuer là-dedans. Donc, s'en est suivi une période pas très cool où Je savais pas quoi faire de ma vie. En fait, vu que moi, j'avais vraiment une passion depuis petite, je m'étais jamais dit c'est quoi le plan B, quoi. J'avais qu'un plan A et donc ça a été compliqué. J'ai eu l'opportunité de partir à ce moment-là à l'étranger et j'ai vécu 6 mois à Dublin. C'était un temps aussi où je devais travailler, apprendre la langue, mais un temps aussi pour me questionner sur ce que je voulais faire plus tard. Je suis rentrée en France, je n'avais toujours pas répondu à cette question, même s'il y avait certaines choses qui s'étaient... des questionnements que j'avais approfondis, peaufinés. Je ne savais pas quel métier je voulais faire, mais je savais que je voulais être utile. Ça me semblait hyper important et aider les autres, leur apporter du bien-être. Donc un jour sur Google, j'ai tapé « mettez bien-être ». Tout simplement. Et il y a un métier qui est revenu régulièrement, je ne sais pas, sur des forums, sur des sites. C'était le métier de naturopathe. Donc à force de le voir passer, je suis allée voir ce que c'était. La définition des sites qui proposaient des formations. Et je me suis dit, ok, ça a l'air pas mal, ça coche quand même pas mal de points sur ta liste des valeurs, des choses qui te parlent, tout ça. Donc après, j'ai fait des forums, je suis allée à la rencontre de certains élèves qui avaient fait ces écoles-là. Et donc, du coup, j'ai choisi, je me suis décidée et j'ai choisi de faire une école en particulier. Donc, le métier de naturopathe, c'est un métier qui est pas reconnu par l'État français et c'est aussi des études qui sont assez chères. Donc, j'ai passé 1 an et demi à travailler, à faire des métiers qui n'étaient pas des métiers de passion, mais qui m'ont permis donc de mettre de l'argent de côté. Et en janvier 2021, j'ai commencé mes études. J'avais regroupé tout l'argent nécessaire et j'ai démarré ma formation. Aujourd'hui, donc, je suis diplômée de cette école Euronature. J'exerce en tant que naturopathe à mon compte. Pas à plein temps, j'en vis pas encore et je continue de me former. Je suis en train de me former à la numérologie notamment, qui est un super outil pour savoir justement qu'est-ce qu'on aime en fait, quel est notre caractère et surtout vers quoi on peut s'orienter pour répondre à ce qui nous définit. Et vu que je ne vis pas encore de cette activité-là, je fais un service civique dans une ressourcerie qui me permet de d'allier en fait mes valeurs chères, à savoir le respect des autres, le respect de l'écologie. Et puis aussi, être naturopathe, c'est un métier où on est seul en fait dans son quotidien, même si on fait des consultations avec quelqu'un d'autre, le reste du temps on est seul. Et là, en étant en service civique, je vois du monde et ça me fait le plus grand bien.
Merci Chloé.
J'aimerais juste revenir si tu pourrais définir naturopathe pour les auditeurs qui ne connaissent
pas.
Oui,
pardon. La naturopathie, en fait, c'est l'accompagnement de personnes qui ont des problèmes physiques ou émotionnels ou les deux. Et on vient les accompagner avec des moyens naturels. Donc les trois piliers principaux, c'est l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress et des émotions. Et puis, on vient se servir d'autres techniques complémentaires, à savoir l'utilisation des plantes à vertu médicinale, donc la phytothérapie, l'aromathérapie, l'utilisation des huiles essentielles, notamment la réflexologie et plein d'autres techniques.
D'accord. Alors, ton témoignage est assez intéressant dans le sens où ça répond à pas mal de questions que l'on s'était posées. Par exemple, la question de départ qui était la filière que nous choisissons à l'école conditionne-t-elle le métier futur ? Et avec ton témoignage, on se rend compte que, en fait, pas du tout. Tu étais partie dans le milieu de la mode et voilà. Et là, te voilà à soigner des gens avec la naturopathie.
Alors, juste, je ne soigne pas. Je préfère recontextualiser les choses. Je ne soigne pas. Je soutiens, j'aide, mais par contre, je ne soigne pas.
Autant pour moi. Et donc, du coup, on peut carrément dire que ce que tu as vécu, ça a été une réorientation professionnelle.
Carrément.
Et d'études aussi, parce que t'as refait des études derrière qui t'ont coûté un peu de sous.
Pareil, il a fallu se replonger dans le bain, en fait. Enfin, quand on a commencé à travailler, c'est pas forcément évident de retourner dans le milieu des études et de refaire fonctionner son cerveau toute la journée.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné cette force de faire vraiment cet effort à la fois financier et intellectuel de te replonger dans une formation ?
Le besoin, je dirais que c'était vraiment le besoin de faire un métier de passion, de vocation. Et ça, enfin voilà, vu que j'ai fait des métiers en fait qui me plaisaient pas, hein, vraiment c'était des métiers alimentaires. Je savais que je pouvais pas rester toute ma vie à faire ça. Vraiment, il me fallait une raison le matin de me lever.
Je comprends très bien ce sentiment d'avoir envie.
J'aimerais souligner une autre question maintenant. Du coup, vu qu'on a des gens qui ont fait des études générales, d'autres qui ont fait des études plus professionnelles, est-ce que vous sentez qu'il y a des inégalités au sein de vos filières, qu'ils soient sociales ou...
Au sein d'une même filière, je pense que c'est assez lissé, bah, mis à part les facilités et les contextes familiaux de chacun, notamment quand on est au lycée, où ça joue encore beaucoup. Mais... je pense que là où il peut y avoir plus d'inégalités de perception, d'insertion dans le monde professionnel, c'est vraiment entre les différentes filières. Comme on le disait tout à l'heure, voilà, une filière professionnelle va justement être professionnalisante de l'alternance. Justement, tu as déjà un pied encore à l'école, mais un pied dans le monde professionnel, dans une vraie entreprise. Et ça, c'est intéressant, je trouve, avec notamment vis-à-vis de la problématique chômage qu'on a aujourd'hui en France.
Parce que je tiens à souligner que d'après l'INSEE, en 2020, je rappelle aux auditeurs, que c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques, qu'il y a des inégalités au niveau même des filières, notamment quand on a trouvé, d'après les études, que dans les filières professionnelles, on a plus d'ouvriers, d'enfants issus de familles ouvrières, que dans les bac technologiques et général, où on a plus d'élèves issus de milieux favorisés. À peu près un ratio de plus de 52%. Et on remarque aussi que les plus hauts taux de réussite sont dans les filières générales et que sur tous les élèves qui ont eu leur diplôme de bac, notamment si on prend les chiffres de 2020 où 78% l'ont eu, 41% sont issus des filières générales.
Tout à l'heure, je t'ai vu acquiescer Malika par rapport aux inégalités. Non, c'était ça, les inégalités des filières.
Ouais, entre les filières.
T'avais envie de t'exprimer dessus ?
Ouais, c'est par rapport... par exemple, généralement, il y a des personnes, en général, ils veulent venir en STMG, en technologique. Ça veut dire de passer de la générale à la technologique, c'est faisable. Mais remonter de la technologique à la générale, c'est un peu plus dur et... encore plus quand on est en professionnel pour pouvoir remonter. Parce que j'avais une copine, elle avait fait quoi ? Elle avait fait gestion administration, du coup en professionnel. Et elle a demandé si elle pouvait remonter en STMG pour du coup faire marketing, etc. Ils lui ont dit tant qu'elle ne touchait pas les 16-17 de moyenne générale, elle ne pouvait pas y mettre un pied. C'est-à-dire, je veux bien comprendre, il faut avoir une autre moyenne, mais demander un 17 de moyenne générale alors que la personne elle vient juste d'arriver au lycée, elle découvre... comment ça fonctionne, etc. Et c'est pas du tout comme le collège, le lycée. C'est-à-dire, pour le temps d'adaptation qu'on doit avoir, je pense que c'est un peu trop demandé. Peut-être un petit 13 de moyenne générale, 14, pourquoi pas. Mais 16, 17, c'est un peu trop.
T'as l'impression qu'on donne pas la chance à tout le monde, justement, et la chance aussi de prouver, au final, ses capacités.
Oui, c'est exactement ça.
Du coup, vous soulignez le fait que les élèves ne sont pas assez préparés pour aller au lycée, pour choisir après leur filière ?
Oui.
Et qu'il y aurait une sorte de sélection trop stricte, avec une mise en valeur des filières générales ?
Oui, enfin, sélection trop stricte, je ne sais pas, mais il y a beaucoup, entre guillemets, de bâtons sur la route. Enfin, c'est quand on nous dit, quand je passe de la troisième à la seconde, la seule chose qu'on a pu me dire, c'est oui, les professeurs, ils vont pas écrire au tableau, faudra prendre des notes comme des grands... votre emploi du temps, il va un peu changer, vous allez finir à 18h. Au bout d'un moment, je suis en troisième, j'arrive au lycée, je découvre ça, mais je découvre plein d'autres choses. C'est-à-dire les matières, il y a des choses qu'on a apprises au collège, qu'on ne voit même plus au lycée, des choses encore plus poussées. En fait, on ne nous prépare pas au fait qu'il va falloir on doit devenir responsable, en fait. On doit grandir. Au début, en troisième, on nous prend un peu comme des bébés. La seule chose qu'on nous répète, c'est le brevet. Arrivé en seconde, on est directement lancé dans la cour des grands sans même avoir été prévenu de quoi que ce soit.
Et toi, Mamadou, t'as senti ce gap, cette différence entre la troisième et l'entrée au lycée ?
Non, du tout. Bah, déjà, moi, nous, en troisième, il fallait faire un stage d'observation. Mm-hmm. Moi, personnellement, je l'ai fait comme... À ce que je fais là maintenant, bah, ça n'avait rien à voir. Je l'ai fait dans un stage de mécanique. Et là, je suis dans le bâtiment, ça n'a rien à voir. Mais pour moi, j'étais obligé de faire un stage dans une entreprise pour vraiment commencer, parce que je savais déjà à l'avant. Après, on n'a pas été dans le même lycée, dans le même collège, je veux dire. Nous, personnellement, ils nous ont prévenus que le monde du travail, bah, ça allait arriver très, très vite. Le lycée, ça débite très vite aussi. Seconde, première, terminale. Sachant que ceux qui partent au lycée professionnel, bah, c'est directement le monde du travail comparé à ceux qui vont dans un lycée général. Nous, à partir de la seconde, deux fois dans l'année, on a deux stages. Un stage de 3 semaines et avant la fin, un autre stage de 3 semaines. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le monde du travail comparé à ceux qui sont en général. C'est-à-dire qu'il fallait déjà s'y préparer mentalement et physiquement aussi.
Ouais, et ça, je trouve que c'est une bonne philosophie de faire des stages aux élèves. Et c'est moi, personnellement, ce que je peux reprocher aux filières générales et même technologiques, je pense, c'est également, c'est que on n'a pas de stage, on ne nous confronte pas finalement à ce qu'est la vraie vie. On est là avec nos cahiers, mais au final, la vraie vie, c'est pas des cahiers, quoi.
Et enfin, oui, pardon. Là, tu soulignes, je trouve, une question super importante. C'est comment, au final, choisir sa future filière, son futur métier, si on n'a pas l'occasion, en fait, de découvrir le milieu.
Bah, c'est exactement ce qu'elle a dit, là. Bah, en général, si tu n'as pas de lycée général, si tu es dans un lycée général et qu'ils ne proposent pas des stages de pratique pour que les élèves puissent apprendre, bah, ils ne vont jamais avancer. Nous, en étant dans un lycée professionnel, à partir du moment où on fait des stages, ça nous permet de voir si le métier il est intéressant ou si on va rester dedans ou si on va rester dedans, mais pourquoi pas plus tard progresser en faisant une autre formation qui rejoigne exactement la même chose, mais différemment. Alors que quand tu es dans un lycée général, moi, je connais plusieurs personnes qui sont là, qui ne savent même pas quoi faire. Après, ils ont eu leur bac, mais après ça, plus rien. Tu les retrouves même pas en cours, en fait. Rien. Comparé à un lycée professionnel.
Ouais, moi, ça a été mon souci pendant beaucoup d'années. Alors moi, j'ai fait un bac général et je n'ai jamais su ce que je voulais faire plus tard. J'avais la chance d'être bonne élève, donc personne s'en souciait. Tout le monde me disait, bah, de toute façon, toi, tu pourras faire ce que tu veux. Mais je ne savais pas ce que je voulais.
Et tu peux nous rappeler le bac que tu as fait, la filière que tu as eue ?
Oui, alors moi j'ai fait un bac scientifique, bac S. Et aussi pour faire plaisir à papa et maman, une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie en école d'ingénieur. Sauf que là ça a explosé. C'était finalement, c'est pas ça que je voulais faire, ça m'intéressait pas, c'était compliqué. Et donc, je me suis complètement réorientée. J'ai tout laissé tomber pour partir en BTS agricole. Et j'ai été confrontée à un autre souci. Ça a été la vision assez réductrice qu'on peut offrir à un BTS versus une école d'ingénieur et au milieu agricole versus le milieu des nouvelles technologies, de l'environnement, de l'industrie. Et donc ça a été assez compliqué, mais au final je me suis super épanouie dans mon BTS. À la sortie de ça, j'ai fait un an d'apprentissage dans une ferme de vaches laitières qui m'ont embauchée à la suite. J'y ai travaillé 2 ans. Et puis voilà, les aléas de la vie, j'ai eu envie de voir autre chose parce qu'on est jeune et je pense que c'est quand on est jeune qu'il faut justement se lancer, oser et oser aller voir ce qui se passe à côté. Et d'où ce service civique que je fais donc dans un théâtre, ce qui me permet d'être en relation avec des comédiens professionnels, le monde du spectacle Et voilà, et c'est hyper enrichissant. Je ne sais pas encore ce que je ferai à la fin de mon service civique. Est-ce que je me lance, est-ce que j'essaie d'entrer dans le monde assez restreint des intermittents du spectacle? Est-ce que je retourne dans le milieu de l'agriculture? Je me questionne, mais c'est, comme tu disais Mamadou, c'est pas grave. C'est pas grave ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas grave ce qu'on fait plus tard. Le tout, c'est d'être bien au moment présent, de pouvoir se suffire à soi-même. Et donc, voilà, je suis assez fière de mon parcours.
C'est une belle mentalité, mais j'aimerais revenir sur un point que vous avez dit. Vous avez dit que, selon vous, les filières générales ne parlent pas ou peu, voire dénigrent les métiers artisanaux, ces choses qu'on a pourtant besoin pour que la société fonctionne.
Oui, c'est vrai qu'on en a besoin, mais moi, ce que j'ai vécu, c'est que les professeurs, que ce soit au collège ou au lycée, dès qu'il y avait un bon élève qui alors c'était pas mon cas, mais quand je dis un bon élève, un élève avec des moyennes assez élevées, qui savait ce qu'il voulait faire, je sais pas qu'il voulait faire, j'avais une copine qui voulait être coiffeuse. Et les profs ont été scandalisés parce qu'elle voulait partir en bac pro, parce que c'est ce qu'elle voulait faire. Mais ils disaient, mais non, avec les moyens que tu as, tu peux aller en général. C'est trop dommage de se fermer des portes. Mais ce n'est pas se fermer des portes que d'aller là où on a envie.
Très bien. Est-ce que ça peut expliquer le fait que, du coup, quasiment 46%, d'après le RES, vont à l'université parce qu'on leur a dit qu'il faut poursuivre leurs études? Ce qui expliquerait peut-être un taux d'échec assez élevé au niveau de la première année universitaire?
Je pense que ça s'explique totalement, surtout qu'après un bac général notamment, comme on disait, il n'y a pas d'opportunités professionnelles qui s'offrent à nous, et donc on est obligé de continuer avec d'autres études. Et les études les plus simples à décrocher, pas les plus simples à réussir, mais les plus simples à décrocher, c'est malheureusement la fac, quoi.
Très bien. J'aimerais maintenant poser une autre question. D'après toujours l'INSEE, les égalités des chances entre les enfants issus des milieux ruraux et urbains ne sont pas les mêmes. Qu'en pensez-vous? Je vais citer des chiffres peut-être pour aider. D'après l'INSEE, plus les enfants vivent dans un village, moins ils ont accès à proximité de grandes écoles, d'universités ou de facs. Enfin, c'est la même chose, mais bon. C'est surtout qu'ils doivent faire des longs chemins, notamment entre les 11-14 ans, en moyenne, ils doivent parcourir 12 km pour aller à une école. Et passer entre 15-17, on passe à 24. C'est quasiment le double. Et on remarque du coup que les élèves qui vont encore à l'école sont tous maintenant en ville. Ils habitent en ville. Est-ce que le fait que les élèves issus de communautés rurales auraient moins de chances de réussir dû à la proximité et que du coup ça coûterait un coût notamment?
Alors c'est vrai qu'il faut prendre en compte les trajets de bus, notamment avec le ramassage scolaire, l'obligation parfois d'être à l'internat. Et une chambre d'internat, c'est bien quand ça se passe bien, mais ça peut vite devenir un calvaire pour quelqu'un qui est un peu renfermé, pour quelqu'un qui a du mal à s'intégrer à un groupe. Donc je comprends ces chiffres, même si je pense qu'une fois le bac passé, si on veut continuer les études, notamment dans tout ce qui va être grandes écoles, même quelqu'un qui habite en ville aura peut-être tendance à aller chercher une école qui se trouve dans une ville voisine. Donc pour moi, après le bac, ce clivage ruraux-urbain est moins important. Mais ça reste un sentiment personnel de vécu.
Oui, après tout, on n'est pas tous dans cette situation, donc on ne peut pas avoir vraiment la science infuse dessus. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur ce fait? Non. Après, c'est difficile à répondre. On ne peut pas avoir la vérité. Très bien. J'aimerais passer sur un dernier point. J'ai ici encore devant moi des chiffres de l'INSEE qui montrent cette fois que la catégorie socio-professionnelle des parents influe sur la réussite scolaire des enfants. Et on peut remarquer aussi que ça s'accentue au fil des années. Prenons un exemple. On a fait passer des dictées depuis 1987 à des élèves et on les a comparées à des résultats, notamment de la session de 2007 et de 2015. On remarque que le nombre moyen d'erreurs à la dictée a augmenté, passant de 11 en 1987 À 18 en 2015, chez des gens issus de parents d'agriculteurs, d'artisans, de professions intermédiaires. Et quand on regarde le nombre d'erreurs faites par des enfants issus de professions intellectuelles et supérieures, ou de cadres, on est sur des chiffres assez faibles comparés à d'autres. Pour exemple, prenons sur l'année 2015, ces enfants-là ont fait que 13 erreurs sur la dictée, en moyenne, sur leur groupe, alors qu'on est à 19 pour les agriculteurs.
Alors, je pense que ça s'explique. C'est vrai que, alors malheureusement, sur le papier, on est tous égaux, mais malheureusement, dans la vie, il va y avoir notamment des milieux familiaux. Il sera plus facile d'étudier, de faire les devoirs que d'autres.
Avec du soutien aussi, des parents qui ont la capacité en fait d'aider l'enfant. Et donc l'enfant ne se retrouve pas trop rapidement à faire ses devoirs tout seul.
Et une question de ressources également. Malheureusement, il y a certaines familles qui ne peuvent pas payer les études supérieures à leurs enfants et c'est dramatique. Alors, il y a les aides, mais voilà, parfois ça ne suffit pas. Parfois, on est juste à la limite. Malheureusement, des fois, on a des parents qui gagnent juste un petit peu trop pour que les enfants touchent les aides, mais ça ne leur donne pas forcément les moyens de financer ces études. Et c'est malheureux, c'est pas normal. Oui.
C'est dommage.
Ouais.
Très bien. J'aimerais poser une dernière question. Cette fois-ci, c'est un peu plus personnel. Vous êtes tous, même moi y compris, en service civique. En quoi le service civique peut-il aider à avoir un projet d'avenir tout en étant utile à tous ?
Manika.
Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ?
Pardonne-moi. On est tous en service civique.
Oui.
Mais en quoi ça peut aider des gens qui ne savent pas trop quoi faire plus tard tout en étant utile au quotidien ?
Déjà, ça nous est utile à nous-mêmes selon là où on va faire notre service civique. Moi, personnellement, je sais que je suis bien dans le milieu, tout ce qui est social, etc., et de communiquer avec les gens, etc. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi une association. Après, le côté animation, c'est parce que ça m'apporte de la proximité avec les enfants et même pour les aider eux-mêmes, pour leur orientation, parce que c'est compliqué. Déjà, à un jeune âge, on commence déjà à nous dire « Ouais, tu vas faire quoi plus tard ?»
Du coup, on peut en profiter pour découvrir un domaine qu'on n'aurait pas forcément choisi. Ou, au contraire, renforcer sa conviction sur ce qu'on voulait faire ?
Effectivement, c'est totalement ça.
C'est vrai que c'est une bonne idée.
Mamadou, tu as quelque chose à dire là-dessus, sur le service civique ? Ce que ça t'apporte ?
Ouais.
Tout à l'heure, Chloé, vas-y.
Je voulais juste rajouter que le service civique, en fait, on peut le démarrer à partir de 16 ans. Donc c'est ça qui est super, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'attendre de finir de passer son bac pour s'engager en fait dans une association.
Très bien. C'est vrai que du coup, ça permet de réfléchir bien avant le bac.
Et surtout de tester en fait, de voir s'il y a des milieux qui de base nous attirent et nous conviennent. Et puis aussi de sortir de sa zone de confort. Là, tu vois par exemple Malika, tu fais de l'animation. Ça se trouve avant ton service civique, tu te rendais pas compte que tu kiffais l'animation.
Enfin, après moi. Je ne vais pas mentir, à l'animation, je me suis mise dedans parce que même en étant petite, j'ai été dans plusieurs centres. Et j'étais plus l'enfant qui reste tout le temps avec les animateurs. C'est-à-dire qui regarde comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que quand on est petit, on pense, par exemple, toutes les activités mises en place, on pense que c'est du jour au lendemain qu'on les fait. Hein. Alors que quand on est avec les animateurs, on voit qu'il faut des heures réservées, payées, etc. C'est-à-dire, ça m'a apporté un peu plus de réflexion sur tout ça.
Ok, merci. Mamadou.
Comme l'a dit Chloé et Malika tout à l'heure, on n'a pas besoin d'attendre la fin de nos études pour faire un service civique, pour apprendre un métier, pour se renseigner. Parce que moi, un service civique, ça peut aider à tout le monde, les jeunes d'aujourd'hui, surtout ceux qui sont un peu dissipés ou qui, à 16 ans, n'ont plus de cours ou qui ne sont plus à l'école. Ça peut leur servir pour vraiment retrouver... goût au travail et puis voilà quoi.
Oui, et du coup un volontaire service civique n'est pas n'est pas pris dans une structure selon ses compétences, hein, ou son bagage scolaire, justement. Et ça peut vraiment permettre d'aller à la découverte de nouveaux milieux, en fait. D'élargir vraiment nos horizons. Et moi, je trouve ça hyper intéressant.
Tu vois, par exemple, quand j'ai arrêté mes premières études en design de mode, j'étais vraiment complètement perdue par rapport à ce que je voulais faire. Mais au final, il y a l'opportunité de partir en Irlande qui s'est présentée, donc la question a été vite réglée. Mais c'est vrai que les quelques semaines avant que ce voyage se fasse, je me disais, j'étais super, déjà attirée par l'écologie, et en fait, faire un service civique à ce moment-là m'aurait été d'une grande aide, parce que ça m'aurait permis à la fois d'être dans le monde du travail, d'être dans quelque chose de concret, et à la fois de me laisser du temps, puisqu'un service civique, c'est entre 24 et 28 heures par semaine, pour réfléchir à moi, ce que j'ai envie de faire, ou dégager du temps libre pour pratiquer d'autres passions. Enfin, voilà.
Mais si je veux faire un service civique, est-ce que j'ai des avantages au niveau financier, au niveau... est-ce que j'ai des avantages en soi ?
Alors, un service civique, c'est indemnisé à hauteur, tout confondu, d'environ 600 euros par mois. Donc, c'est une petite somme qui peut ne pas être négligeable.
Sachant du coup qu'on n'est pas déclaré comme travailleur, donc on ne prend pas de... Il ne faut pas les déclarer aux impôts ou je ne sais plus dans quel autre...
Alors c'est une indemnisation qui est exonérée d'impôts. Par contre, les trimestres qu'on va faire en tant que volontaire comptent notamment pour notre droit à la retraite. Ça, il faut le savoir.
C'est un des droits qu'on a du coup. Et ça dure à peu près combien de temps environ ?
Alors, moi personnellement, j'ai un contrat de 8 mois.
8 mois ?
Idem pour moi, mais ça va de 6 à 9 mois, il me semble.
À 10 mois, je pense.
Ouais, 10 mois. Ouais.
Donc et en plus, on a temps variable, en gros. C'est nous-mêmes qui choisissons.
Tout à fait, on peut adapter la durée du contrat par rapport aussi à de futurs projets. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. on peut faire un service civique jusqu'à 25 ans. Donc à partir de 16 ans et jusqu'à 25 ans et 30 ans si on a un handicap.
Voilà, et dans des structures vraiment diverses et variées. Rien que là autour de la table, on a un théâtre, une ressourcerie. De l'animation avec les jeunes. Mais voilà, on va aussi avoir des écoles. Des centres un peu plus axés autour du sport. Donc voilà, je pense qu'on peut encourager nos auditeurs à se rendre sur le site du service civique et regarder tout ce qui est possible de faire grâce à ce module.
Ouais. Pour moi aussi, je voulais rajouter que le service civique, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, 600 euros, c'est pas négligeable. Du coup, pour moi, ça peut être un bien pour eux. Et ça permet aussi de découvrir et en plus, c'est arrangeant pour eux, je veux dire.
Peut-être pas mettre de côté pour éventuellement financer des études si on trouve une voie après.
Exactement.
Tout à fait.
600 euros par mois, même si c'est pas ouf, c'est déjà quand même un salaire, on va dire. En quelque sorte, pour un enfant de 16 ans, c'est bénef quand même.
Ah bah clairement, moi, si j'avais eu 600 euros par mois à 16 ans, j'aurais été la plus heureuse du monde.
Bien sûr.
Et voilà, et pour les personnes un peu plus... vieille, oh, c'est horrible de dire ça, à qui ça ne suffit pas. Voilà, 24 heures semaine, ça reste assez peu pour continuer à avoir une activité tierce à côté et compléter ce revenu, en fait.
Oui.
Très bien, quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce débat ou on peut passer au mot de la fin ? Très bien, passons au mot de la fin du coup. Sur un mot, liberté de s'orienter, utopie ou réalité ? Chloé ? Tu peux ne pas répondre, juste donner un mot oui ou non.
Par rapport à ta question, il faut que je te dise si c'est une réalité, une utopie. Ou...
Ce que t'en penses. Tu peux ne pas donner réponse.
Ce que j'en pense, je pense que c'est une question qu'on va être amené à se poser toute sa vie. Et moi, j'aime bien me dire qu'en fait, rien n'est figé et qu'on peut toujours changer.
Très bien, Pauline.
Je pense que c'est pas toujours facile. Notamment les réorientations, parce qu'on est dans un confort, même si c'est un confort inconfortable. Et il faut vraiment une force de caractère et vraiment une grande force pour réussir à vraiment aller là où on veut, parce que ce n'est pas forcément là où la société veut nous emmener.
Il faut s'y battre, quoi.
Ouais.
Malika ?
Pour moi, ça reste une utopie, mais qui peut se transformer en réalité avec le temps et les efforts.
Très bien. Et Mamadou ?
Bah pour moi, peu importe ce qu'on fait, et bah à tout moment, on peut le changer, en fait. Et à tout moment, on peut être mieux heureux en le changeant qu'en restant dans ce qu'on fait actuellement.
Et bah merci à tous d'être venus et d'avoir débattu. Je voudrais remercier nos auditeurs qui nous écoutent sur Radio Campus sur 88.3 et passer une bonne journée.
Merci à toi, bonne journée.
Merci.
Merci, bonne journée.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La rédac pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La rédac pop de Radio Campus Orléans.
il est vraiment poisson ?
Non. Le son est frais, par contre.